Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Il est même 18h59, on est en avance pour ce nouvel épisode de Cop et Glon, votre magazine 100% OGC Nice sur les antennes de BFM Nice Côte d'Azur. On est en avance, pourquoi? Parce que évidemment on débrief une victoire, ce qui n'est pas habituel, hein, vous l'aurez remarqué dans cette saison pleine de péripéties pour le gym. On ne sait plus où donner de la tête avec l'OGC Nice, victoire 4-1 à la Beaujoire dans le fameux match à 6 points contre le FC Nantes. Opération réussie pour la bande à Claude Puel qui relègue les Canaries et leur place de barragiste à 7 points. De quoi entrevoir plus sereinement la suite de la saison. Au sommaire ce soir, dans cette émission, le débrief forcément de cette lourde victoire 4-1, je le rappelle, du côté de Nantes. Et puis la deuxième partie avec les top flops, ça c'est habituel. Et puis le focus qui change de semaine en semaine, focus spécial Mercato. Ce soir, Hicham Boudaoui pourrait partir dès la fin du Mercato hivernal si une belle offre se présentait aux dirigeants niçois. On parle d'une somme aux alentours de 20 millions d'euros d'un club de Première Ligue. Serait-ce une grosse perte pour le gym? L'OGC Nice perdrait-il peut-être son meilleur élément? Les chroniqueurs, déjà, je vous le dis, ne sont pas du tout d'accord. On s'en est aperçu juste avant l'émission. En tout cas, ils en débattront dans ce 22e épisode de la 5e saison de Cop et Glon. C'est parti! On a le sourire ce soir autour de la table et forcément Nanino, Nico, là, puisque combien de débriefs on a fait cette saison avec le mal de tête?
Ah ben bah, je t'ai envoyé un message après le match. Ouais, hein. Je voulais l'envoyer à la mi-temps, mais je me suis dit on sait jamais.
Et vu la deuxième mi-temps qu'il y a eu,
j'ai bien fait. Hein. Ouais, mais ça fait plaisir de débriefer une victoire, deux victoires même comme on disait. Semaine parfaite, donc le grand sourire. Ouais.
Effectivement, oui, c'est vrai. Victoire contre les Red Eagles, c'est également en Europa League, victoire quasi historique. Hein, un petit peu. Guillaume Grasso qui est avec nous. Bonsoir Guillaume, comment ça va?
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va super. Super semaine, deux victoires. Et quand on sait que les victoires, que les matchs peuvent influer sur notre humeur, bah, on est forcément tout sourire aujourd'hui.
Journaliste suiveur de l'OGC Nice, forcément, Guillaume Grasso. Et puis, notre historique de Cop et Glon, c'est Guy qui est avec nous, supporter historique donc, de l'OGC Nice. Guy, de mémoire, je ne sais plus quand est-ce que vous êtes venu pour une victoire. Je ne m'en souviens même pas d'ailleurs pour le coup.
Alors bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Je me rappelle pas moi non plus. Tellement ça fait longtemps.
Comment on fait alors?
Je sais pas. Il faut consulter les fiches, mais en tous les cas là, on est dans un petit monde merveilleux de Claude Puel depuis ces deux victoires là. Alors on va pas s'enflammer.
Il y a eu 5-1 quand même la semaine dernière.
Oui, bon après celui-là on peut l'avaler un petit peu, mais deux victoires, c'est vrai que c'est exceptionnel. Bon, on va expliquer tout ça.
Prends la direction de la Beaujoire pour voir ce qui s'est passé.
Allez, on y va.
Entre le FC Nantes et l'OGC Nice, avec les images de la rencontre, première mi-temps rondement menée par les hommes de Claude Puel, avec ce pétard de Mohamed Ali Chaud, premier de la journée, lui qui n'avait plus marqué depuis la défaite 5-1 à domicile concédée contre l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de la Real Sociedad, remet ça un quart d'heure plus tard et double la mise pour l'OGC Nice. Non, vous ne rêvez pas, la 40e minute, Nice mène 3-0 avec ce but de Sofiane Diop et ce mauvais renvoi de Taïlel Tati, les Canaries qui vont tout de même réduire le score par l'intermédiaire de Mostafa Mohamed. Avant que Tom Louchet, en fin de match et sa frappe contrée, ne parachève le triomphe niçois dans le temps additionnel de la rencontre. Score final 4-1. Nico, on le voit sur ces images et les hola d'ailleurs des Nantais à la fin qui ont vraiment chambré leur protégé, même si protégé c'est peut-être pas le mot, en tout cas leur joueur. Quelle fait du bien cette victoire qui échappait, on le rappelle, au gym en championnat depuis le 29 octobre dernier, c'était contre Lille.
Elle fait du bien et je pense qu'elle vient aussi récompenser le bon travail qui est effectué depuis le retour de Claude Puel. Avec du recul, on peut se dire que le match à Toulouse était peut-être un accident et que c'était un petit peu cher payé ce score-là. On a vu beaucoup de belles choses dans le jeu, sur différentes séquences aussi, avec du jeu en transition où on a fait beaucoup de mal aux Nantais. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que les trois offensives devant sont très complémentaires et ont beaucoup de liberté. On a vu Sofiane Diop aligné côté gauche, mais qui était attiré par l'axe naturellement. Ali Chaud qui était capable de coller la ligne et également de rentrer dans l'axe, on l'a vu sur les deux buts. Donc on a l'impression que quand les joueurs font ce qu'il faut défensivement et dans l'état d'esprit, ça libère aussi beaucoup plus de dynamisme offensivement et c'est une victoire qui est amplement méritée.
Guillaume, on était très inquiet la semaine dernière avec cette défaite 5-1 sur la pelouse du stadium à Toulouse, mais là qu'est-ce qu'ils nous ont fait nos joueurs de l'OGC Nice?
Eh bien, ils nous ont offert une belle victoire. Alors sur le papier, victoire 4-1, 3 buts d'écart, ça reste quand même bien payé, je trouve, comme tu l'as bien dit, Nicolas, une belle efficacité devant les cages, 4 tirs cadrés, 4 buts, je crois. Donc ça reste positif, mais Nice a plutôt surperformé. On a vu une deuxième mi-temps avec des joueurs en souffrance par moment et des Nantes un peu plus révoltés, mais quand même, les Niçois ont gardé assez de calme et plus de sérénité par rapport au match précédent, donc ça c'est positif.
Et quand on parle d'efficacité à Claude Puel, eh bien, il le prend pas forcément très bien. Écoutez sa réaction en conférence de presse.
Je ne sais pas si on peut résumer le match de cette manière, c'est assez péjoratif je trouve, parce que ce qu'on peut constater c'est beaucoup de maîtrise en première mi-temps et récompensé parce qu'on a été très efficace et propre. Et en plus, on a eu, même en première mi-temps, des situations où on peut alourdir le score. Donc il ne faut pas... Voilà, votre question, je l'aime pas trop, parce qu'elle ne reflète pas notre première mi-temps de très, bien, très bonne facture. Et puis après, avec beaucoup de cœur, en deuxième mi-temps.
Guy, ouais. Il y a eu quand même deux sauvetages sur la ligne, un poteau, 20 tirs côté nantais. Ce 4-1, si on est honnête aussi, il faut le dire, il est assez flatteur au final.
Oui, mais je trouve que ce qu'il faut retenir de positif, c'est l'envie manifestée par l'ensemble des joueurs. Je crois qu'on n'a pas vu un joueur traîner par rapport à ce qui se passait précédemment, c'est à souligner. On a vu de l'envie, on a vu aussi qu'avec l'envie, ben, ils se retrouvaient meilleurs footballeurs qu'ils ne l'ont été ces derniers temps. Ça, on le doit à Claude Puel, qui a redonné de la confiance à pas mal de monde, dont particulièrement Ali Chaud, qu'on a vu jouer jusqu'à la 88e. Je crois qu'il est sorti à 87e, 88e. Donc il a fait quasiment tout le match, sans se blesser. Parce que Ali Chaud, il a été soit absent, soit intermittent. Et là, hier soir, hier après-midi, il a été omniprésent. Jusqu'à la fin, il a poussé dans le bon sens. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est parce que Claude Puel a dû lui murmurer à l'oreille. Il a su lui parler, je crois.
Nico.
Ouais, c'est plus de la réussite, je trouve, que de l'efficacité. Mais cette réussite, on l'a aussi provoquée. Je pense qu'il y a quelques semaines, les poteaux, ils étaient rentrants pour l'adversaire et sortants pour nous. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse parce que justement, il y a ce supplément d'âme qu'on a tant évoqué sur les mois précédents. Et ça s'explique aussi par, comme tu l'as dit, de l'envie. Et on sent que les têtes sont libérées. Il y a des joueurs qui sont métamorphosés. Jonathan Clauss, c'est top ouais. niveau, même s'il y a un peu de déchets, ça reste top niveau. Ali Chaud, tu l'as dit, que ce soit en pointe ou à droite, ça, c'était super, Diop pareil, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont libérés et ben, ça donne ce qu'on a vu.
On en parlera dans les top clubs,
évidemment.
Dans quelques instants. Le GC Nice qui était privé encore de 9 joueurs hier, dont Hicham Boudaoui et Melvin Barr, mais qui ont enregistré quand même le retour. Et quel retour de Sofiane Diop, ce qui a amené à cette composition d'équipe avec 6 changements opérés par Claude Puel si on compare au match de Toulouse, un dispositif redessiné en 4-2-3-1. Ali Abdi, Kojo Bepraopong, Salis Abdoul Samed, Charles Van Hoot, Sofiane Diop et Mohamed Ali Chaud ont remplacé respectivement Melvin Barr, Brad Mansunga, Everton, Tanguy Ndombele, Isaac Janssen et Tob Louché. Guillaume, sans empiéter sur les top flops, on va parler un petit peu tactique et un dispositif quand même qui semble assez cohérent et finalement un dispositif assez équilibré.
Oui, un dispositif équilibré, mais... Si on regarde bien la composition, il y a eu 6 changements donc, par rapport au 11 de départ contre Toulouse. Cette fois-ci, Claude Puel a décidé de ne pas aligner de jeunes. Je ne veux pas pointer du doigt les jeunes parce que ce sont les seuls joueurs sur qui on n'a pas le droit vraiment de râler, ce ne sont pas encore des professionnels. Mais dans un match important pour le maintien, comme ce match contre Nantes, Puel a fait le choix de l'expérience. Et a pas mis de jeunes joueurs, et peut-être que ça s'est ressenti aussi avec un groupe, enfin un 11 de départ plus expérimenté, et c'est peut-être grâce à ça que Nice a été plus efficace.
Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un événement en milieu de semaine, c'est la première victoire de l'OGC Nice en Europa League cette saison, 3-1 contre les Go Ahead Eagles qui évoluent dans le championnat néerlandais. Est-ce que Guy, elle a pu avoir finalement un effet sur la performance qu'on a vu hier, ce
Bien
succès
sûr. Bien sûr, toute victoire et toute épreuve parfaitement maîtrisée donne de la confiance. Et on a vu que hier, on a vu une équipe en confiance hier, ou du moins avec moins d'inquiétude que par le passé. Et tout ça, c'est dû à la confiance retrouvée, à ce qu'a apporté Claude Puel. Je pense que déjà, il doit y avoir un contact avec Puel, il doit y avoir un dialogue qui n'existait plus avec Franck Hesse. On dira jamais ici, je crois, que Francaise est un mauvais entraîneur. On n'a pas le droit de dire
mais
ça.
Mais il fallait arrêter.
Mais y a, quand la communication ne passe plus, il faut passer à autre chose. Et là, Puel apparemment sait parler aux joueurs. Et il sait parler aux jeunes, puisqu'on vient d'évoquer le sujet. Et je pense qu'on a de belles surprises à voir arriver là.
On parle des jeunes, vous vouliez nous en parler d'un en particulier, Nico.
Ah, tu me fais plaisir, ouais, de Kyle, ouais. Boudache. Mm-hmm. Ouais, j'en ai tellement parlé depuis des années que j'étais juste trop content de le voir lancer enfin un professionnel. Je trouve qu'il a fait une entrée super intéressante jeudi contre Go Ahead Eagles. Et, ouais.
Courte,
et en tout cas, dans le profil, c'est un profil qui peut tout à fait suppléer Ali Show, notamment sur le côté droit, avec cette vivacité, cette capacité à changer de direction très rapidement. C'est un jeune qui est pétri de talent, qui aurait dû être lancé, selon moi, bien plus tôt dans sa carrière. Donc qu'on profite de lui le plus possible.
On a l'impression que cette victoire, Nico, elle peut, disons, un peu plus libérer les joueurs qui avaient cette étiquette finalement de loser en Coupe d'Europe aussi par rapport aux autres clubs français. Là, finalement, ça va peut-être amorcer, pourquoi pas, un petit déclic, non, dans la tête.
Ouais, je pense que ça les a surtout libérés d'un poids aussi, de se dire on joue plus avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous empêche de regarder à chaque fois l'avenir positivement. Surtout que Go Ahead Eagles c'était, je crois, bien parti pour se qualifier. Il fallait un match nul, donc on n'a pas joué une équipe condamnée, loin de là. Et on les a, je trouve, plutôt bien maîtrisés tout au long du match. Donc évidemment qu'une victoire de la sorte dans une période qui est la nôtre, elle est toujours bonne à prendre.
L'objectif, c'est maintenant d'enchaîner dimanche prochain à 17h15 face au Stade Brestois d'Héricois, qui a vécu hier face à Toulouse, je cite, la pire première mi-temps depuis son arrivée au club. C'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse d'après-match. Ce 4-1 peut-il faire office de déclic pour pourquoi pas enchaîner une série? Il faut aller piano pour Claude Pierre. On l'écoute.
Ça veut rien dire. C'est une étape. C'est une étape, un match où on a été performant. Donc on a réalisé des choses vraiment très intéressantes sur ce match et le couvert sera à remettre le prochain match. On a un match de Coupe d'Europe et après un match contre Brest très, très important à la maison. Donc c'était un match ce soir et puis on verra la suite tranquillement.
Guillaume, on a envie d'y croire, mais c'est vrai que l'OGC Nice est en version montagne russe depuis le début de la saison aussi.
C'est compliqué de se projeter. À ce moment-là de la saison, il reste une quinzaine de matchs, je crois, de championnat. Nice a quand même un petit écart, un petit matelas par rapport à la zone de relégation, 7 points. Je crois avoir vu que jamais à ce moment-là de la saison, une équipe n'avait été reléguée avec autant d'écart sur
6 points, oui, mais pas 7.
Sur le premier relégable, exactement. Donc ne pas s'enflammer, et le match contre Brest peut être aussi un tournant en cas de victoire, peut-être espérer jouer le milieu de tableau en cas de défaite. On attendra la fin de la saison.
Guy, je sais que l'avenir du club vous préoccupe, comme nous tous d'ailleurs autour de ce plateau, mais on en parle souvent hors antenne. On sait que l'OGC Nice qui reste en Ligue 1, ça aidera finalement Ineos à vendre le club en fin de saison. Notre confrère Régis Testelin de l'équipe a parlé d'un prix avoisinant les 50 millions d'euros, bien loin des 200 réclamés au départ par l'actionnaire britannique Ineos. Jean-Pierre River et Maurice Couen ont bien précisé qu'il resterait jusqu'à la fin de la saison. Ça vous inspire quoi justement cette fin de saison au-delà du sportif, au niveau de la direction?
On voit bien que tout est mis en œuvre pour que le club soit clean à tous les étages. Radcliffe a pris conscience, tardivement hélas, mais il a pris conscience qu'il est en train de dilapider son argent en laissant couler l'OGCN, l'OGC Nice. Et heureusement que nos amis River et Cohen sont arrivés à la rescousse. Ils sont revenus pour mettre de l'ordre. Puel les a suivis et ça c'est une très bonne chose et je crois que là tout est prêt pour que le club soit vendu, mais je crois me rappeler que Ineos avait payé 100 millions l'OGC Nice à l'époque et là s'il vend 50 millions il perd pas mal de sous là.
L'objectif, je pense que c'est de s'en débarrasser le plus vite possible, c'est ce qui est en train de filtrer.
Alors ce qui est inquiétant, c'est qu'un prix bas indique un repreneur moyennement riche. Et donc peut-être moyennement sérieux.
Il faudrait pas un nouveau cas Bordeaux, peut-être pour les Nice.
Le tout, c'est qu'on n'hérite pas d'un Lopez.
Évidemment. On continue de parler du gym dans la seconde période de Cop Aiglon avec d'un côté les top flops et puis aussi un focus qui promet d'être enflammé sur Hicham Boudaoui. À tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon ce soir pour évoquer cette victoire 4-1 du côté du FC Nantes. Gros succès de la part de l'OGC Nice. On manquait de top la semaine dernière. Maintenant, peut-être qu'on va manquer de flop ce soir dans les top flops. C'est parti. On commence avec Guy, c'est top flop, et Mohamed Alichaud en top. Là, vous prenez pas trop de risques. Hein,
non, mais c'est tellement spectaculaire ce revirement de situation à son sujet que je trouve que c'est brillantissime. Quoi. Il a fait un match complet, parce qu'il a des capacités, tout le monde en était d'accord jusqu'à présent, mais il était tellement lymphatique, il montrait tellement de signes de m'en foutisme, enfin on sentait qu'il y avait le talent mais il n'y avait pas l'envie, et là maintenant qu'il a l'envie, le talent peut s'exprimer.
Nico, l'association avec UAI, elle est très intéressante aussi, parce que le Puel expliquait qu'il c'était très ami, et ça pour ça le coup ressent, on le voit aussi sur le terrain,
ouais. Ça se ressent, puis de toute façon je pense que si Mohamed Ali Khalil UAI le lui permet, en pense sur les choses qui sont ces dernières semaines à l'OGC Nice, parce qu'il libère tout le monde, il donne beaucoup de confiance à ses partenaires et il fait un bien fou.
C'est d'ailleurs la seule chose qui soit arrivée.
Il y a eu le retour quand même de... Ah oui, non. En termes d'arrivée de joueurs, ouais, c'est clair, malheureusement.
Monsieur, est-ce que vous vous souvenez du dernier doublé de Mohamed Alichaud dans sa carrière?
C'est le premier.
Ah non.
Exactement, c'est le premier. J'ai tenté de les piéger, mais...
Ils
sont de qualité, ces invités. Hein. Forcément, le premier doublé de Mohamed Alichaud dans sa carrière. Ça, c'était pour les côtés positifs de cette rencontre en termes de joueurs, mon cher Guy. Le flop, c'est Salis Abdoul-Sabed.
Ouais, parce que j'ai regardé quasiment deux fois le match. Je l'ai regardé une première fois en partie et une deuxième fois ce matin en totalité. Et je ne l'ai pas vu à aucun moment dans une action... saillante du match. J'ai cherché, j'ai pas vu. Donc je trouve que pour une recrue, je sais pas si vous l'avez vu.
Je trouve qu'il a quand même eu le mérite de beaucoup courir. Je l'attends pas là avec le ballon, je l'attends pas dans ce registre-là, mais
il a dû courir vite, c'est pour ça que il est passé.
Et top flop de Guillaume avec Jonathan Clauss forcément en top.
Ouais, Jonathan Clauss présent sur les trois premiers buts du gym. Partout là où il faut, quoi. Offensivement, il apporte du surnom. Défensivement, il a fait les bons gestes aussi. Il est de retour à un bon niveau. On le sent plus motivé depuis qu'il a signé sa prolongation de contrat. On le sent plus impliqué dans le projet du club.
Plus investi, effectivement. Guillaume, le flop, c'est Ali Abdi qui n'a pas suppléé Melvin Barr comme on s'y attendait.
Exactement. Bah, un peu... c'est un peu le contraire de Clauss, hein. Il était de l'autre côté, il était un petit peu en décalage à contre-temps, j'ai trouvé. Son carton jaune, je m'en souviens bien, en première période, il était complètement en retard, il a complètement fauché le joueur, et après il y a le but sur lequel il est un peu fautif parce qu'il laisse le Nantais tout seul faire la tête sur le corner. Donc je l'ai trouvé un petit peu en retard
sur le but. On a retrouvé la défense fébrile de ces dernières semaines, parce que en regardant bien, on voit trois Niçois et Abdoul-Samed qui arrive au milieu et qui met sa tête et personne n'a bougé, quoi.
Dans la défense, vous ciblez quelqu'un ou...
En défense, oui. sur cette action-là.
Oui, sur cette action.
Oh, ben, les deux, il y avait Abdi, il y avait Djoumaba. Ouais. Alors Djoumaba, on va pas trop taper dessus parce que il a fait un match.
On va même pas du tout taper dessus, parce que vous savez quoi, c'est le top de Nico ce soir.
Ah ouais, c'est mon top.
Nico qui défend Salis Abdoul-Samed et qui met en top Djoumaba. Mais Nico, qu'est-ce qui lui arrive
Nico
ce soir,
il adore déranger.
Non, je trouve que c'est important de le valoriser parce qu'il est mieux depuis quelques semaines et qu'on lui est beaucoup tombé dessus, parfois à juste titre. Et que je trouve que dans notre analyse, on a parfois oublié, moi le premier,
qu'il a que 19 ans,
qu'il a très peu d'expérience dans le monde professionnel, qu'il arrive dans un contexte qui est extrêmement compliqué, il est surresponsabilisé, et je trouve qu'il a une sacrée force de caractère quand même de ne pas s'être effondré, il ne s'est jamais plaint, et je trouve que son match à Nantes, il est bon, très clairement, il est très bon quand il faut défendre en avançant, un peu plus de mal quand il faut reculer et quand il faut relancer propre, donc je pense qu'on n'en fera pas un Sergio Ramos, ça c'est sûr. Mais dans l'attitude, il est exemplaire. Je trouve qu'il dégage beaucoup d'ondes positives aussi pour ses partenaires. Donc j'avais envie de le valoriser.
Ça reste à confirmer quand même. Hein.
Mais déjà, il n'est pas blessé, donc il peut aussi. Match, c'est quelque chose que je voulais mentionner, justement, tu m'y fais penser, c'est qu'il n'est jamais blessé. Ça,
c'est vrai.
Et je trouve que dans notre effectif, c'est un vrai point fort.
C'est vrai.
Celui qui a longtemps été... On aurait presque aimé qu'il soit blessé.
Sur certains, effectivement. Celui qui est souvent blessé, malheureusement, c'est Morgan Sanson. Ouais. Et il va s'attirer les foudres de Nico, ouais, d'ailleurs.
Je suis peut-être encore à contre-courant parce qu'il fait une très belle passe décisive sur le deuxième but d'Alichaud. Mais moi, j'ai été déçu de sa prestation dans l'ensemble. Je trouve qu'il a eu beaucoup de déchets, il a beaucoup ralenti le jeu.
Il a moins pesé que
la moins pesé. Et je trouve qu'avec ce genre de joueur, on doit être assez exigeant. Et je pense que lui-même est aussi avec. Quand on a autant de qualité avec ballon, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'il a fait. Je pense que sa passe décisive doit lui servir de déclic. Je pense que c'est mental, il doit se projeter encore plus, il doit y croire jusqu'au bout parce qu'il a les qualités pied droit, pied gauche pour faire beaucoup plus de différence. Je trouve qu'il a ralenti le jeu sur beaucoup de situations. Donc on est en droit d'en attendre un peu plus, mais ça s'explique aussi peut-être par le très peu de matchs qu'il a joué pendant la première partie de saison. Donc je pense que ça ira de mieux en mieux pour lui.
Et sûr, avant de passer au focus, un petit mot sur Dante. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Et ces 10 dernières minutes, ça fait du bien aussi de revoir le capitaine, ouais, brésilien, Guy.
Ouais. Oui, ça fait plaisir parce que déjà pour lui, parce que physiquement il revient et il devait être malheureux de ne pas pouvoir participer. Après, Dante, je lui en veux un petit peu, moi, pour son silence pesant. Mm-hmm. Pardon, je lui en veux un petit peu pour son silence pesant durant toute la période la noire qu'on a vécue, parce que je trouve qu'un gars comme ça qui a 10 ans d'OGC Nice, il aurait pu s'exprimer plus tôt. Là, il s'exprime parce que ça va mieux en nous parlant de Dieu, mais j'aurais aimé qu'il prenne une forme de leadership sur l'équipe.
Ça a un peu écorché son image pour vous,
pour Guy? Moi, oui. Enfin, ouais. Ça l'a pas écorché parce que il est admirable, mais ça m'a déçu.
La même opinion, Nico, sur Nanté? Un peu plus mesuré, peut-être.
Un peu plus mesuré parce qu'il était tellement hors du groupe que je pense qu'on aurait tous aimé à un moment donné qu'il prenne la parole publiquement. Mais ce qui est important dans ce qu'il a dit sur sa prise de parole, c'est que tout le monde au club est au courant de ce qu'il pense. Et mine de rien, il est dans le groupe depuis 2 matchs et 2 victoires. Donc je pense que c'est pas anodin non plus.
On va refermer ce sujet d'Anté pour tout de suite nous immerger dans le focus. Il est 19h22 dans le temps additionnel de cette émission. Donc on est parti pour le focus. Focus spécial Mercato. Hicham Boudaoui pourrait partir dès la fin du Mercato hivernal si une belle offre se présentait aux dirigeants niçois. On parle d'une somme aux alentours de 20 millions d'euros, pourquoi pas d'un club de première ligue. Hicham Boudaoui, on le sait, réputé à la fois irrégulier mais tellement précieux au milieu de terrain. Le départ de l'international algérien, messieurs, je vous pose la question, serait-il une énorme perte pour le GYM? J'irais même plus loin, est-ce que l'OGC Nice perdrait-il un de ses meilleurs éléments? Oui ou non, et après on en débat. Guy?
Non.
Plutôt non.
Si on... Ah ouais, non.
Guillaume?
Non.
Oui.
Ah ben, on va commencer par le oui de Nico. Allez.
Sportivement, pour moi, perdre Hicham Boudaoui, c'est...
Une catastrophe?
Non, c'est pas une catastrophe, parce que ça va peut-être permettre à d'autres joueurs de prendre le relais, mais c'est une perte, ça c'est évident. Je trouve que globalement, le passage de Boudaoui à Nice, il est sous-estimé. Il est parfois frustrant parce qu'il n'a pas franchi ce cap supplémentaire qui l'amène au plus haut niveau, parce que je pense qu'il en a les qualités. Mais ça reste un joueur qui, depuis 2 ans, je trouve, est assez régulier et pas tant blessé que ça, il me semble, si on regarde les stats. Moi, personnellement, je suis fan absolu du profil d'Hicham Boudaoui. Maintenant, si on parle d'une offre de 20 millions d'euros, je crois, à 1 an et demi de la fin de son contrat, c'est pas déconnant de le vendre quand on connaît l'état économique du club. Donc, ce ne serait pas une catastrophe de le perdre, mais ce ne serait pas une bonne nouvelle sportivement pour la fin de saison.
Vous, Guillaume, c'est pas une grosse perte de voir partir Hicham Boudaoui?
Alors, est-ce que c'est un des meilleurs éléments de l'effectif? Oui. Est-ce que c'est une grosse perte de le voir partir? Non. Alors, il a peut-être été un peu plus régulier sur les dernières saisons, mais je trouve que depuis qu'il est arrivé, ça manque de rythme, en fait. Même s'il manque pas beaucoup de matchs, il y a toujours un match où il est malade, un match où il a un pépin physique. Alors, il va peut-être en faire beaucoup des matchs, mais ça manque de rythme et de régularité. Moi, j'ai souvenir de très bons matchs qu'il a fait, mais pas de matchs où il a été décisif et où on s'est dit, sur ce gros match, c'est grâce à Boudaoui qu'on a gagné.
Guy?
Ouais, très bon joueur, mais je pense pas que ce soit une perte colossale qui quitte le club. Je crois qu'il avait été un peu influencé par les 2 assurés sociaux là, qui sont en train,
ITT,
en train,
ouais,
de profiter de nos impôts, Et
dédicace. Hein,
comment dédicace aux deux voilà. peintres. Ouais. Et je pense qu'il a, il doit avoir fait le tour à l'OGC Nice, parce que comme on disait hors plateau. Ça fait quelques années maintenant qu'il est au gym. Donc,
C'est le deuxième joueur qui est à Dante et puis à Hicham Boudaoui en termes de longévité. Il est là depuis 2019, l'international algérien. On parle d'un club de première ligue potentiellement intéressé, mon cher Nico. Il aurait le niveau pour aller dans quel type de club, justement, dans le championnat anglais? Ce serait plus vers quoi? Vers le top 6, dans le milieu de tableau?
Tu veux mon club idéal pour lui? Brighton.
Brighton,
ouais. Parce que c'est un club qui bosse super bien, qui joue un football qui lui correspond à 200%. Moi, je pense qu'il peut s'imposer partout, Hicham Boudaoui, parce que tous les coachs qui sont passés à l'OGC Nice depuis son arrivée, il y en a eu beaucoup, ils ont tous été sous le charme de ce joueur-là. J'ai ce petit regret qu'il n'ait jamais été installé au poste de numéro 6 dans cette équipe. Moi, j'ai souvenir d'un match à Rennes où il éteint littéralement le milieu rennais avec Eduardo Camavinga, je crois que c'est sous Didier Digard, où il est utilisé au poste de numéro 6. Peut-être que je me trompe, c'est pas Digard, mais... Voilà, c'est un joueur qui a toujours dépanné à l'OGC Nice, mais qui ne s'est jamais vraiment imposé à un poste fixe où il a pu exprimer ses qualités. Et c'est le petit regret que j'ai sur lui, mais je l'imagine parfaitement s'imposer en première ligue. Alors là, il n'y a aucun problème.
Guillaume, côté milieu de terrain à l'OGC Nice, il resterait Charles Van Hout, il resterait Salis Abdoul Samed, Tanguy Ndombele et Morgan Sanson qui pourraient redescendre d'un cran plus Everton. C'est pas la folie non plus hein, si Hicham Boudaoui venait à partir.
Alors s'il part cet hiver. C'est vrai que c'est pas la folie. Là, les derniers matchs, depuis que Claude Puel est arrivé, je sais pas s'il a déjà joué avec Claude Puel ou pas. Non, je crois pas, parce qu'il y avait la CAN. Non. Donc, il n'a pas joué avec Claude Puel. Je le trouve pas indispensable. Je me dis pas quand est-ce que Boudaoui va revenir. Là, ça commence à devenir compliqué. En revanche, si au mercato d'été, on peut se procurer d'autres milieux de terrain avec son profil, qui nous manque actuellement, ça, ce serait une bonne idée.
En soi, de ne pas remplacer Hicham Boudaoui, s'il venait à partir, Guy, ce ne serait pas indispensable. On peut continuer comme ça avec ces 4-5 milieux de terrain que j'ai cités juste
avant. Oui, avec des jeunes. Il y a le copain de Nico, s'il a le petit Khalil.
Boudache ?
Ouais.
Ouais, il joue devant.
Ouais, mais bon.
Mais ça peut permettre à Job de reculer aussi.
Exactement.
Ouais.
Et en plus, à la fin de la saison, ce sera un autre club, je pense. Hein. Donc, il sera temps de faire. Là, ce sera une saison avec plein de nouveautés à arriver. Hein. Et 20 millions.
On a bien compris en tout cas ce que vous pensez autour de ce plateau de Hicham Boudaoui et le débat intéressant et contrasté entre vous. On va clôturer cette émission parce qu'il le faut, il est 19h27 quand même avec le classement de la Ligue 1 avec un nouveau leader, le Paris Saint-Germain qui est nouveau premier après sa victoire à Auxerre dans ce mano à mano avec Lens et Nordiste défait au Vélodrome 3-1, on voit les Olympiens 3e revenir à 5 longueurs, Lyon 4e suit à 36 points, on retrouve l'OGC Nice dans la deuxième partie de tableau à la 13e place, 2 de grappillés avec une des bonnes opérations de cette 19e journée. La place de barragiste occupée par Nantes est maintenant à 7 longueurs. On voit les places de la 7e à la 12e, c'est juste après. Mais en tout cas, on sait que Nice a cet avantage, voilà, on le voit
par
rapport au FC Nantes. 21 points pour les Aiglons, 14 en faveur des Canaries qui sont 16e. Quelle va être la suite pour l'OGC Nice? Eh bien, on va s'y intéresser dans un instant avec le calendrier du gym. Direction tout d'abord la Bulgarie et Razgrad pour un déplacement sur la pelouse du champion en titre Ludogorets pour clôturer l'Europa League. Ce sera jeudi à 21h, retour des affaires courantes en championnat dimanche prochain à 17h15 contre Brest à l'Allianz Riviera. Deux autres matchs à domicile suivront. Montpellier en Coupe de France mercredi 4 février à 20h30 et la réception de l'AS Monaco dimanche 8 à 15h. Le derby de la Côte d'Azur qui fera l'objet, d'ailleurs, je vous le dis en avant-première, de notre focus la semaine prochaine. Guy, très rapidement, on a une dédicace à faire ce soir.
Oui.
C'est maintenant.
Oui. Il y a une supportrice absolue de l'OGC Nice et de Samuel Prosimo qu'il nous faut saluer absolument.
Il y en a.
Yeah, ouais, il s'agit de Marinette,
voilà.
Qui est au marché de la Libération. Voilà, on l'embrasse, Marinette.
Absolument, on embrasse également Fabien de Fréjus qui est un habitué de Cop et Clon. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été accompagné ce soir, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Cop Mounegou, c'est l'antenne de BFM Nice Côte d'Azur. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 19h.